Daniel Amodé, je vois que dans la liste, je suis présentée en tant qu'interprète et conférence à la Cour de justice de Luxembourg, ce qui a été vrai jusqu'à l'année passée. Il y a exactement un an, je suis partie à la retraite. Et depuis le 1er avril, je suis présidente de l'ITAC, qui est l'association européenne des interprètes et traducteurs juridiques. Je me sens de toute façon très liée à la Cour, évidemment. Donc, à chaque fois que j'entends parler de la jurisprudence, Covaci et les arrêts qu'on vient d'entendre cités par Maître Verbruggen, j'étais en audience. Donc, si jamais tout à l'heure quelqu'un veut savoir comment ça se déroule, une audience à la Cour, ce qui n'est pas ce qui se passe devant le juge national. Je suis tout à fait contente de pouvoir répondre. Mais la question, je pense, la question plus importante qui vient de citer Maître Verbruggen a été justement celle, et je commence par là, de la qualité de l'interprète. Il parle de déontologie, loyauté, confidentialité. Ça, on apprend ça. Une des batailles que nous portons, que nous combattons dans nos pays, est justement celle de la formation, des interprètes judiciaires et juridiques. Je ne comprends pas pourquoi, si c'est vrai qu'au niveau international, devant les cours internationales, que ce soit la Cour de justice, la Cour pénale internationale, la Cour des droits de l'homme de Strasbourg, on a des interprètes qualifiés, diplômés, normalement des interprètes de conférence. Je ne comprends pas pourquoi, devant le juge national qui s'occupe de garantie des droits de l'homme, et vous connaissez mieux que moi tous les problèmes qui surgissent devant les juges nationaux, pourquoi on ne prend pas suffisamment à cœur la question de la qualité des interprètes. C'est très facile de dire pour cette combinaison linguistique, il n'y a personne. Donc, on va prendre n'importe qui. C'est pas ce que la directive dit, c'est pas ce que les hommes de droit pensent, et c'est pas ça la justice. Brièvement, j'ai participé à une conférence il y a quelques mois en Sicile. Donc vous pouvez vous imaginer ce qui se passe en Sicile avec tous les immigrés qui arrivent, les bateaux, etc. Et j'étais en conférence avec un juge instructeur italien qui nous a dit « Je me trouve face à quelqu'un, je ne sais pas d'où il vient, je ne connais pas sa langue. Je sais pertinemment qu'il n'y a aucun interprète avec une combinaison possible. » Mais s'il y a quelqu'un qui passe dans les couloirs du tribunal et qui dit « Mais ne vous inquiétez pas, monsieur le juge, je vous aide, je connais ces personnes, je sais d'où vient ces personnes. » « Je sais, dit le juge, c'est pas justice, la justice, parce que je ne suis pas en mesure d'évaluer ce qu'il raconte, je ne sais pas quelle est la langue qu'il parle, je ne sais pas si mes questions vont être traduites correctement et fielement. Vous avez parlé à un moment donné de l'interprète traduit fielement, encore faut-il qu'il soit préparé à le faire. Mais je me dis peut-être il y a quelque chose qui sort de ça. Donc je pose une question, cette personne traduit, l'autre personne comprend parce qu'elle commence à répondre, je ne sais pas ce qu'il a traduit évidemment, il parle. Et le soi-disant interprète se tourne vers moi à la fin et lui dit, il a dit non. Donc, peut-être il a dit non, mais l'avocat, le juriste ne peut pas accepter ça. Ayant travaillé 35 ans à la Cour, je sais ce que le juge prétend de nous. Il faut que les notions soient bien présentées, il faut que la terminologie soit là. Il faut que les concepts juridiques soient présents. Sinon, le juge ne pourra jamais faire justice. Et en même temps, ce que disait ce juge, je me rends compte que
Ça, c'est un déni de justice, en fait, parce que pour tout le monde, pour les suspects, mais pour nous aussi. Et donc, il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faudrait, justement, être formé. Il faudrait qu'il y ait des cours qui s'organisent sur la base des exigences, des nécessités. Un des buts que je me suis posé avec ULITA, justement, c'est celle de faire une recherche dans nos pays pour comprendre combien d'affaires par an ou sur une certaine période se passent dans une langue ou avec une langue étrangère. Quelles sont les langues étrangères les plus utilisées devant les juges nationaux de ces pays-là plutôt que de l'autre? C'est quelque chose que arrive parfois en Allemagne, pas dans toutes les langues, mais dans certains, par exemple à Hambourg, il y a une liaison entre, les tribunaux communiquent les exigences qu'ils ont et des collègues de l'État avec l'Université d'Hambourg ont établi un cours très intéressant, et je reviendrai tout à l'heure sur ça, pour répondre aussi aux exigences des juges, donc de la justice. Parce qu'il faut se dire qu'un interprète qualifié, un interprète diplômé ou qui connaît sa profession, aide à arriver à la justice. Et c'est ça le but, justement, des interprètes qui le sont. Le thème qui a été choisi est comment définir une qualité adéquate et sûre d'interprétation des traductions. Je me concentre surtout sur l'interprétation, mais mutatis mutandis, comme disent les juristes, ça vaut aussi pour la traduction. Évidemment, il serait très bien, le juge a besoin d'un interprète pour une affaire devant lui, il pousse un bouton sur son ordinateur et voilà, on a la liste des interprètes avec certaines combinaisons. Et il cherche la combinaison dont il a besoin. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que sur le site e-justice de la commission, il y a ces registres? Il y a ce registre européen qui a été un des objectifs, si vous voulez, d'un projet dont on parle, je crois, tout à l'heure, sur LitSearch. Donc le fait qu'on essaie d'aider, on met ensemble les registres qui existent dans les États membres, on les place, chacun garde les siens, mais on peut aller trouver automatiquement la combinaison linguistique d'un interprète ou d'un traducteur dans le registre, disons, entre guillemets, européen. Et malheureusement, arrivé à un certain point, les États membres ont décidé, ou la majorité des États membres ont décidé que c'était encore trop tôt, qu'en fait, certains parce qu'ils n'ont pas de registre, certains parce qu'ils n'ont pas de registre en ligne, certains parce qu'ils ne veulent pas dévoiler, je ne sais pas quelles informations, mais de toute façon, ce registre n'existe pas. Et je crois qu'on va parler cet après-midi ou tout à l'heure de qui, pourquoi et de ce qu'on pourrait faire. Donc on ne peut pas pousser un bouton et trouver l'interprète dont on a besoin. Moi j'insiste beaucoup sur la nécessité de formation, et comme je disais, il n'y a pas beaucoup de formation pour les langues à faible diffusion. Faible diffusion ne veut pas dire peut parler en général, mais peut parler dans ces juridictions particulières ou dans ces pays particuliers. C'est sur ça qu'à mon avis, il faut combattre, il faut essayer de convaincre, que ce soit les universités, parce que du point de vue de la part des associations nationales, des interprètes et traducteurs juridiques, on a tout intérêt et on est tout à fait ouvert à former aussi d'autres interprètes. Il n'est pas nécessaire que ce soit des interprètes, des étudiants, des gens qui ont une combinaison particulière, qui viennent de pays différents, peuvent arriver à vouloir devenir interprètes ou traducteurs parce qu'ils sont, par exemple, ils sont juristes dans leur pays ou parce qu'ils ont une combinaison particulièrement intéressante. Donc, ce n'est pas possible. On ne sait pas combien ça coûte. Je suis italienne, comme vous aurez compris. En Italie, la situation est tout à fait dramatique, dans le sens qu'un interprète recruté par un juge est payé 7 euros par heure. Donc, ce que vient de dire Maître Ferbrugge est tout à fait vrai. Pourquoi est-ce que, si j'ai bien travaillé, j'ai une combinaison intéressante, j'ai mes diplômes, je suis qualifiée, tout ce que vous voulez, comment est-ce que je peux survivre avec un salaire ou 7 euros par heure? C'est vraiment invraisemblable. Et donc, ça revient à, on prend n'importe qui passe par là. Maître Ferbrugge a déjà cité la directive 2010-64, évidemment, qui invite les États membres à faire attention, par exemple, à faire en sorte qu'il y ait une communication entre les juges, on puisse avoir une communication entre les juges et les suspects, donc améliorer la situation des interprètes, etc. On invite les États membres à établir des registres avant de transposer dans leur ordre juridique. Octobre 2013 était la date limite pour la transposition. Et la Commission aurait dû présenter avant 2015 un rapport sur la transposition dans nos États membres. Le rapport n'a jamais vu le jour. J'ai entendu que la grande majorité des États membres, peut-être tous les États membres, ont répondu à la Commission qu'ils ont tout fait, qu'il n'y a pas de problème, que la directive est parfaitement transposée dans leurs ordres juridiques. Mais en fait, la situation n'a pas bougé depuis lors, je pense, pour les États que je connais, pas du tout. Donc j'imagine que c'est vrai un peu partout. Donc vous voyez qu'il y a des articles, il y a des considérants, la prise en charge des frais d'interprétation. Évidemment, si ça coûte 7 euros par heure, vous comprenez que ce n'est pas trop pour le budget de la justice. Et on dit, il y a beaucoup de conférences, beaucoup de séminaires, beaucoup de des réunions où on parle des interprètes juridiques. On parle des interprètes, rappelons-nous que les interprètes sont interprètes en langue orale, mais aussi en langue des signes. Il ne faut pas oublier qu'ils doivent travailler, et ils doivent travailler en langue des signes juridique. Donc vous comprenez que ça aussi, ça nécessiterait une attention particulière de la part du législateur. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Mais donc tous ces colloques, conférences, etc., on insiste beaucoup sur la qualité. Encore faut-il savoir ce que c'est la qualité. Il y a 2 ou 3 semaines, il y a eu un colloque très intéressant à Granada, avec par titre la qualité de l'interprétation. Et à la fin, il n'y a pas une réponse. Parce que la qualité, on peut l'évaluer sur les contenus, évidemment, mais aussi sur la voix, sur la présentation, sur les registres. Il y a plusieurs facettes. Et un interprète qui entend un autre interprète donne une évaluation de son travail, probablement différent par rapport à celui qui, au public. Quelqu'un qui ne connaît pas la langue d'origine entend quelqu'un parler très bien, traduire, interpréter très bien, et peut-être ça n'a rien à faire à ce qu'il a dit l'orateur. Donc il y a plusieurs facettes aussi de ce point de vue-là. Mais à mon avis, qualité, c'est, et j'insiste beaucoup sur ça, formation, conscience. La connaissance d'une autre langue n'est pas suffisante. Il faut connaître les droits, il faut connaître les droits de son propre pays, l'ordre juridique du pays de la langue étrangère. Il faut connaître la culture de l'autre. Déjà, un exemple très banal, si le juge ne connaît pas, par exemple, un grec, les grecs, pour dire oui, ils font comme ça. Si le juge n'est pas conscient que c'est ça veut dire oui, et l'interprète dit il a dit oui, il peut imaginer que il s'est trompé. Donc c'est très important aussi de connaître les habitudes, la culture de l'autre pays. Connaître, approfondir justement. Il faut aussi savoir, il faut aussi se dire que normalement devant un juge national, l'interprète se trouve face à une situation de stress. Le suspect ou la victime est stressé, se trouve dans une, surtout devant dans un interrogatoire de police. Donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe autour. Et l'interprète même est stressé, évidemment, parce que ce n'est pas évident, surtout quand on est devant un cas de violence, de viol, quand il y a un enfant pour lequel il faut traduire ou qu'il doit parler. Donc, du point de vue psychologique, c'est une profession parfois très, très stressante. Et donc, il faut une certaine doigté, disons, il faut comprendre aussi les relations humaines sans pour autant. Sans pour autant, et ça je crois que c'est très important, vouloir agir en tant qu'expert. Je sais qu'en France, dans les droits français, l'interprète est considéré un expert. Or, normalement, l'expert donne des avis, donne des conseils, présente des rapports. L'interprète qui interprète, donc qui est recruté pour médier entre deux, en tant que médiateur, entre deux personnes qui ne se comprennent pas, n'est pas un expert, ne peut pas s'arrêter et expliquer au suspect ou au juge ce qui se passe et le pourquoi du parce que. Il peut le faire, mais il faut qu'il s'interrompe et qu'il dise, monsieur le juge, j'aimerais, ben ça c'est une possibilité, j'arrête mon interprétation, mais je dois vous expliquer que. Par exemple, il est arrivé à Paris, une collègue française m'a raconté qu'elle s'est trouvée devant le juge et la personne, pas suspectée parce qu'elle avait passé déjà 4 mois en prison, le juge lit le procès verbal de l'interrogatoire de police. Et il lit et elle traduit en anglais. Et à un moment donné, le juge parle de « vous avez admis que dans votre sac, vous aviez des stupéfiants ». C'est traduit en anglais. Et le jeune dit « non, je n'ai jamais dit ça ». Donc il y a un moment d'incertitude. Et elle se rend compte que pendant l'interrogatoire des polices, ce garçon avait dit « I have some drugs in my bag ». Or, drug n'est pas nécessairement stupéfiant. C'est produit pharmaceutique, médecine, etc. Mais le policier, considérant connaître l'anglais, et de toute façon, drug et drogue, c'est pas trop difficile à traduire, il a pris et placé en prison pendant un temps X, je parle 4 mois, je crois qu'il est resté en prison. Et donc à ce moment, elle se rend compte qu'il y a eu une erreur au niveau de l'interrogatoire de police. Et donc elle arrête, elle demande au juge d'interrompre le travail d'interprète pour lui expliquer qu'il y avait eu un grave malentendu et que drague n'est pas nécessairement drogue, etc. Et donc c'est à ce moment-là que le juge s'est rendu compte qu'en effet, il y avait eu une erreur au niveau de l'interrogatoire, et il a libéré les jeunes. Donc, c'est là pour dire que ce n'est pas pendant l'interprétation. L'interprète, je ne veux pas dire, parce que je ne crois pas, doit être transparent, absent, il doit être neutre, évidemment, il doit être professionnel, mais pas, il ne peut pas donner lui des arguments ou, comme disait ce monsieur à Syracuse, dire « il a dit non ». L'interprète qualifie et sait qu'il doit toujours parler à la première personne, parce que c'est lui qui parle en tant que juge, tout de suite après, en tant qu'avocat ou en tant que suspect, etc. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il faut faire vraiment beaucoup d'attention à la question de la déontologie, que je crois, après la connaissance évidente de la langue, est une priorité. Il faut que cela soit clair pour ceux qui vont faire les interprètes. Donc, dans toute formation, il faut qu'il y ait que la déontologie soit enseignée. Et du point de vue des opérateurs juridiques, que ce soit les avocats, que ce soit les juges, les procureurs, les policiers, il faut qu'ils soient sensibilisés à ça. Il faut qu'ils ne se contentent pas. L'État a depuis longtemps des excellentes relations avec, par exemple, l'Association européenne des avocats des droits pénals, donc la ICBA, CCBI, etc., et avec beaucoup d'associations de magistrats. Parce que je pense que si on part, si on espère que ce soit le législateur qui bouge, on aura beaucoup de temps à attendre avant d'y arriver. Donc je crois que la sensibilisation, le fait que des avocats et des juges, selon les cas, connaissent ces problèmes, sachent que pour l'interprète qualifié, celle de l'interprète qualifié est une profession. Et c'est là, c'est un autre problème gravissime à mon avis. S'il est vrai qu'au niveau des cours internationales, l'interprète a droit à préparer le dossier. À la Cour de justice, si on recrute des freelances, les freelances sont recrutés pour 2 jours. Le premier jour, pour la préparation du dossier. Il serait invraisemblable d'entrer en cabine sans avoir préparé le dossier. Or, si je comprends bien, dans tous nos États, ça c'est un problème transversal, dans tous nos États, ce n'est pas permis. Ou bien l'interprétation, par exemple, du code de procédure en France ne dit rien à propos des dossiers pour les interprètes, mais on interprète de façon très restrictive, en disant qu'il n'est rien dit, donc on ne peut pas. Et donc, si vous avez un juge assez qui a compris, sensibilisé, qui connaît l'importance pour lui et donc pour la justice, que l'interprète soit préparé, qu'il puisse savoir de quoi on parle. Évidemment, je parle maintenant de l'audience. Hein. Évidemment, devant le policier à 3 heures du matin, on ne peut pas prétendre d'avoir des dossiers parce que le policier même n'a pas de dossier. Mais en même temps, au moins que l'interprète qui est convoqué connaisse de quoi on parle. Est-ce que c'est un viol, un accident de voiture, est-ce que c'est un homicide, tout juste pour se dire... Attends, je me place dans cette situation-là pour travailler au mieux. Mais quand on est devant le juge, et les juges lisent beaucoup les procès-verbaux, etc., avant l'audience, ou lisent des... Et on ne l'a pas, on ne peut pas prétendre qu'on sache tout et qu'on puisse traduire tout et n'importe quoi. Il y a un mot en italien que je déteste, mais qui je crois est très... qu'on comprend bien, qui est tuttologo. Tuttologo, ça veut dire quelqu'un qui sait tout. Et parfois, on considère que l'interprète, tac, on pousse le bouton et voilà, on a tout ce qu'il faut pour qu'il traduise. Non, il faut... L'avocat se prépare avant une audience. Le juge est préparé avant une audience. Même le greffier est préparé avant une audience. Donc, l'interprète qui, dans cette audience particulière, est fondamental. Parce que s'il ne comprend pas, ou s'il fait comme s'il avait compris et raconte n'importe quoi, eh ben, c'est dans l'intérêt des personnes que ça se passe. Donc vous voyez, il y a plusieurs degrés de disons, la discussion peut prendre des routes différentes, mais le problème essentiel, et je termine
Peut-être je n'ai pas suivi, mais je crois que on a tout écrit. Hein, je pense que les deux des notes étaient déjà écrites. Et c'est le même d'ailleurs qui a été présenté au séminaire à Trèves et qui va être présenté en allemand et en anglais. Je termine sur ça. Formation, sensibilisation des juges et des avocats. Donc, et je crois que les avocats aujourd'hui peut-être sont les mieux placés pour se rendre compte vraiment de l'importance, parce qu'ils ont tout intérêt, je sais pas, à gagner l'affaire ou à faire que leur suspect soit, disons que la vérité surgisse et que ce soit la vérité. Donc, merci de votre attention.